Pierrot Munch, parce que mademoiselle se paie le luxe d'avoir un pasteur en guise de parrain. Donc, bienvenue Pierrot en particulier. Pierrot qui avait eu l'occasion d'être ici même pour célébrer la bénédiction nuptiale d'Yvonne, votre mère, et de Patrick. Voilà, avant toute chose, rappelons-nous le cœur de l'Évangile qui retentit à nos oreilles ce matin encore. La grâce et la paix nous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous lever pour chanter Dieu avec le premier répond indiqué sur le livret liturgique jaune qui figure au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Nous louons Dieu avec les mots d'un psalmiste. Sans fin, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors, heureux, oui, heureux le peuple qui sera acclamé. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Chers frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir votre psautier au psaume 19, un très joli psaume que nous n'avons pas beaucoup l'habitude de chanter. C'est la raison pour laquelle notre organiste jouera la première strophe, de façon à ce que nous nous mettions la mélodie dans l'oreille, après quoi nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du psaume 19. Nous laissons donc à notre organiste le soin de le jouer une première fois. Dimanche prochain, nous aurons l'occasion de reprendre à nouveau ce psaume pour que nous ayons plus de familiarité avec lui. En accueillant ce matin Esther qui a demandé le baptême, c'est pour notre Église l'occasion de répondre à cette exhortation, à cette parole que Jésus adresse à ses disciples au moment de les quitter, selon ce que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, est-il écrit. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Éternel notre Dieu, un jour, nous avons peut-être été baptisés, pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père, mais nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes véritablement tes enfants, capables d'aimer de ton amour. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas notre prochain. Du moins, nous ne l'aimons pas de la manière dont Jésus a aimé celles et ceux dont il s'est rendu proche. Le plus souvent, nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit, mais combien de fois avons-nous vraiment porté les fruits de l'amour ? De la fidélité, de la joie. Alors nous t'en prions. Accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. En réponse à notre prière, nous pouvons entendre ces mots issus du premier et du second testament. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre père. Vous serez mes fils, mes filles. Et voici ce que nous entendons comme écho à la prédication de Jésus. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. C'est ainsi qu'il nous donne la capacité, le courage de marcher ensemble vers son royaume. Alors, levons-nous pour lui chanter notre reconnaissance. Je vous invite à prendre place. Esther, vous avez donc demandé à recevoir le baptême, à recevoir le signe de cette bienveillance que l'Éternel accorde à chacun, à chacune. Il est d'usage dans notre Église de baptiser aussi bien les petits-enfants, ce qui est une manière d'exprimer que cette grâce relève vraiment de la grâce et qu'elle ne dépend d'aucun mérite personnel, et également de baptiser les adultes qui, en même temps que le baptême, souhaitent exprimer leur foi, leur confiance en Dieu et, dans une certaine mesure, exprimer leur adhésion à l'Évangile qui retentit tout au long des textes bibliques. Et c'est cela qui aujourd'hui vous mobilise. Le baptême est une occasion pour Esther aussi d'exprimer un engagement dont elle dira l'essentiel tout à l'heure. C'est un acte libre et c'est aussi cela que manifeste le baptême célébré pour les adultes. Mais j'aime bien le baptême des petits-enfants car ils disent que l'amour ne dépend pas de notre bonne disposition. Nous sommes aimés indépendamment de nous-mêmes. Mais le baptême d'adulte exprime la liberté que l'adulte accueille pleinement et dont il fait une énergie pour accomplir sa vocation. Vous vous êtes donc préparé au baptême, sérieusement, depuis de longues années en fait, et vous nous direz aussi quelques étapes qui sont finalement des jalons sur votre trajectoire personnelle. Ce baptême est aussi pour nous un événement important, car c'est une occasion pour nous d'être vraiment communauté, de répondre à notre propre vocation, d'être vraiment Église du Christ, en vous faisant votre place. Non pas une place parmi d'autres, mais votre place. Et nous sommes heureux que cela s'inscrive après la bénédiction qui avait été célébrée pour vous deux, car c'est une façon de dire à quel point l'Église est famille, famille spirituelle, et cela vous sera redit aussi tout à l'heure. Alors je vais vous demander de vous approcher maintenant, Esther, et parce que le baptême est un acte libre, je vous pose quand même cette question. Que demandez-vous ?
Je demande le baptême.
Esther, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esther, Dieu vous conduira sur le chemin de vie, dans sa paix, dans sa force et dans sa joie. L'Éternel vous bénit et vous garde tout au long de votre route. Amen. Frères et sœurs, voici Esther. Je ne vais pas faire comme pour les petits-enfants, la porter, vous la présenter au bras. Le cœur y serait néanmoins. Mais elle est assez grande pour que vous puissiez voir son visage rayonnant. Esther, avec l'Église chrétienne, voulez-vous confesser la foi de l'Église ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Et je vous invite, chère communauté, à vous lever pour vous associer aux mots que Esther a choisis, qu'elle a assemblés, qu'elle a composés pour déployer cette confession de l'Église. Et donc, votre confession sera aujourd'hui celle de notre Église.
Je crois que Dieu est amour. Il aime chacun d'entre nous tel qu'il est. Il nous dit dans Ésaïe, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Dieu nous aime tout au long de notre vie, même avant que nous ne l'aimions. Il est la source de notre amour, la même source de laquelle jaillissent la vie et la joie. Qu'est-ce qu'il est bon de vivre, profiter de chaque instant de notre vie, la vivre comme le cadeau qui nous a été offert. Je crois à la vie plus forte que la mort, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Dieu est une force qui nous fait vivre. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit que l'amour est aussi fort que la mort. Je crois que l'amour est plus fort que la mort. Dieu, par son amour, nous donne la force de surmonter ce qui paraît insurmontable. Il nous envoie un message d'espérance, nous donne la force de pardonner, nous redonne confiance dans les moments difficiles. Dieu est bienveillant envers les vivants, car il accueille à ses côtés nos proches, qui restent un soutien dans notre quotidien. Je souhaite que Dieu soit ma force. Dieu est aussi le rocher sur lequel je m'appuie et duquel je tire ma force. La foi m'aide à voir la vraie valeur des choses et des êtres humains qui m'entourent. Dans Samuel, Dieu dit « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Plus qu'un rocher, Dieu peut aussi être une grotte dans laquelle nous nous retirons afin de prendre du recul, nous remettre en question. Nous pouvons tout remettre à Dieu dans ces moments d'introspection, préoccupation, espoir, désir. La foi est un point de départ pour faire confiance. Avec l'amour et la force de Dieu, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Comme Jésus le dit à ses disciples lorsqu'ils ont peur de la tempête. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? Je souhaite donc que Dieu soit mon guide. En faisant confiance, Dieu nous donne la force de ne pas choisir le chemin le plus facile. Il rassure Jérémie et lui donne confiance en lui disant « Ne me dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Par l'Esprit Saint, Dieu est toujours à nos côtés pour nous stimuler, tout en nous encourageant à rester humbles face à l'immensité de son amour. Je souhaite ancrer mes convictions dans la foi et que Dieu me guide pour vivre en accord avec ce qu'il nous enseigne. Ce cadre et ce fil rouge sont une orientation et un encouragement à aller constamment de l'avant afin de construire de nouvelles choses. Je veux m'engager pour un monde meilleur. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. En effet, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Lit-on dans Marc. Je n'ai aucune envie de perdre ma vie. À quoi sert-il de courir si c'est pour passer à côté de l'essentiel? J'ai besoin de la foi pour ancrer cet essentiel. La fraternité, l'amour et le partage. Je veux m'émerveiller chaque jour de la beauté de la vie, de la force de l'amour de Dieu, pour faire le bien autour de moi et soutenir ceux qui ont besoin de soutien. La foi m'ouvre à un mode de vie éthique et à ce désir de mener une vie engagée, solidaire et responsable. Amen.
Je vous invite à prendre place.
Voilà, donc après cette confession de foi, j'aimerais bien essayer de partager avec vous les étapes importantes qui m'ont amené à demander le baptême aujourd'hui. Alors, j'ai vécu une enfance très très heureuse qui a tout de même été marquée par un événement très douloureux, c'est-à-dire la mort de mon père à mes 6 ans. Donc, malgré cette souffrance et cette douleur, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, me pousse à aller de l'avant, qui m'a transmis une notion de sensibilité et de responsabilité, et cette conviction vraiment qui est ancrée profondément au sein de moi-même, qui est que la vie et l'amour sont plus forts que la mort. Et la vie est un cadeau qu'il faut vivre et qu'il faut, de laquelle, duquel il faut profiter. Ensuite, j'ai eu la chance, pendant mon adolescence, de participer à des camps chrétiens pour adolescents, que certains ici connaissent, qui ont vraiment beaucoup participé à ma construction personnelle et où j'ai en fait profondément vécu ce qui caractérise ce que j'appelle la foi aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai expérimenté la foi à travers la relation à l'autre. J'ai rencontré des jeunes, j'ai tissé des amitiés très fortes, j'ai aimé, j'ai partagé. Et ce sont tous ces moments très forts et ces relations intenses, ces moments de vie, ces moments de bonheur qui ont participé à construire ce qui est aujourd'hui ma foi. Ce sont aussi donc des fous rires avec des amis, vraiment ces moments de vie simple qui font que je suis là aujourd'hui. Donc ensuite j'ai commencé mes études et donc tout se passait très bien. Et ensuite il y a eu un moment qui a été encore assez difficile. C'est il y a 3 ans, un de mes amis a été assassiné. Et face à cette douleur, cette incompréhension et cette injustice énorme, c'est vraiment la force des parents de Martin qui m'a marquée, qui ont vraiment la façon dans laquelle ils ont dépassé cette situation, qu'ils ont pardonné à l'assassin le jour même. Et c'est vraiment cette force et ils ont transformé un événement dramatique dans un combat pour la vie et pour la paix. Et c'est vraiment cette prise de conscience de la fragilité, de la beauté, mais aussi de la grandeur de la vie qui m'a encore une fois marquée et où je pense que Dieu et la foi sont fondamentaux dans ces moments-là. Et ensuite, je suis partie à l'étranger pendant 1 an et je suis partie malgré... je suis partie avec l'assurance que j'avais 2 anges gardiens qui me protégeaient quelque part. Et 2 protecteurs, et avec cette envie de vivre vraiment à 200%, et avec la conscience que tout peut s'arrêter à tout moment, et qu'il faut donc surtout ne pas passer à côté de l'essentiel, et rester sensible à la beauté dans la vie quotidienne. Donc ensuite, je suis revenue à Paris, c'était un retour aux fondamentaux, aux amis, à la famille. J'ai accepté de laisser le passé derrière, et surtout d'embrasser le présent, d'accueillir l'amour qui était présent dans ma vie, de l'apprécier et aussi de le donner en retour. Et aujourd'hui, donc je viens de finir mes études et donc je prends un nouveau départ, c'est une nouvelle étape qui commence devant moi. J'ai pris conscience de mes fragilités et de mes forces, même si j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur moi-même. Et c'est vraiment je fais le choix d'embrasser une carrière et un mode de vie responsable, et j'ai envie de m'engager pour contribuer à un monde meilleur. Et j'ai vraiment envie de vivre avec et pour les autres. Et c'est pour moi le baptême aujourd'hui, c'est la concrétisation vraiment de ce désir, de ce mode de vie, de cet engagement. Et je vais avoir besoin de soutien, d'appui, de guide, d'amour et de confiance. Et c'est cette communauté qui est rassemblée aujourd'hui, mes amis, ma famille, mon pasteur, qui est rassemblée ici et qui est témoin de cet engagement et de cette foi. Et je vous invite vraiment tous à continuer à me soutenir, à m'encourager et à me guider comme vous l'avez si bien fait jusqu'à maintenant.
Alors, il ne faudrait pas que le pasteur soit l'arbre qui cache la communauté, cette communauté qui n'est qu'un des visages de la communauté plus large, et votre famille spirituelle. Vous y avez donc votre place, elle est à jamais marquée. Vous aurez bien sûr la liberté de l'occuper ou non, sachant qu'à chaque fois que vous vous en éloignerez, ce sera notre vocation d'exprimer la fidélité de Dieu à votre égard en vous disant que vous êtes toujours la bienvenue. Bon, ceci dit, ce n'est pas un encouragement à aller trop loin tout de même. Voilà, et je vous invite, frères et sœurs, à vous unir dans la prière pour rendre grâce. Nous pouvons rester assis. Éternel, notre Dieu, Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, en particulier pour ta présence auprès de nous, qui nous rassure, qui nous fortifie, qui nous donne l'enthousiasme nécessaire pour aller de l'avant. Merci pour ta parole qui nous aide à nous orienter, qui nous guide vers toi et vers les autres. Nous te remercions pour Esther, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie, grande est notre joie pour ce moment de foi, pour ce moment de confiance. Fortifie tout particulièrement la foi d'Esther en nous donnant les moyens d'être de beaux et grands témoins auprès d'elle. Sa venue parmi nous ce matin est un témoignage de foi et de nous à nous-mêmes jour après jour, dimanche après dimanche, semaine après semaine, à nous approcher sans cesse plus près de toi, à être à la hauteur de l'espérance que tu formes pour chacun de nous, à être plus confiant dans ta parole, à être plus au service les uns des autres. Et que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, je vous lis les versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà, frères et sœurs, le texte qui nourrira notre méditation ce matin. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières. Le petit livre bleu pour certains, au cantique 400, nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile sous une autre lumière. Que jamais le passé, les schémas tout faits ne nous enferment, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel comme de vrais enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours se tenait le sommet de Rio, 20 ans après le premier sommet réunissant des représentants des États pour envisager des politiques bénéfiques pour l'avenir de la planète. La nécessité d'une convergence entre l'environnement et le développement social et économique avait été posée. Mais 20 ans auparavant, aucune décision n'avait véritablement été prise. Le nouveau sommet de Rio vient donc d'avoir lieu et le président du Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, commente ce nouveau sommet de la Terre en ces termes « manque de courage et égoïsme ». La messe est dite. De fait, l'égoïsme est une force assez gigantesque et qui semble être le principal obstacle à une prise en compte harmonieuse des questions de l'eau, de l'énergie, de la biodiversité, de l'économie, du climat. L'égoïsme conduit, vous le savez bien, certains États à refuser de limiter la pollution au nom de l'intérêt économique de leur souci de croissance industrielle, mais aux dépens d'équilibres internationaux. Pour autant, le constat que fait le président du Muséum national ne me semble pas être forcément un drame. L'égoïsme, une force considérable. Mais peut-être l'égoïsme est après tout une véritable source inépuisable, voire une véritable énergie renouvelable. Et je crois que c'est le point de départ de la réflexion biblique. Il me semble que l'auteur du récit de la Genèse, plutôt que de rentrer dans un face-à-face avec l'égoïsme, préfère tenir compte de l'égoïsme et en faire une énergie positive. Voyons comment cela fonctionne, comment, me semble-t-il, l'auteur de ce récit de la Genèse envisage la question écologique à partir du point de vue particulier de l'homme, et plus précisément de l'homme saturé par son égoïsme. Vous avez certainement le récit de Genèse 1 en tête, cette grande vision cosmologique qui intègre l'ensemble de l'univers. Ici, Genèse 2, le deuxième récit de la création, centre tout sur l'homme, qui est même l'alpha, puisqu'il n'y a rien avant l'homme, pas même un petit bout d'herbe, et l'oméga, puisque tout sera destiné à être soumis à l'homme. Ce récit est donc pensé à partir de l'homme et je dirais de l'homme exclusivement. On tient compte de son négocentrisme. Il y a là, je trouve, cette intuition intéressante, l'intuition que l'homme est en passe de devenir la principale force géologique à l'œuvre dans le monde. Et vous voyez, bien avant le 21e siècle, bien avant notre an de grâce 2012, qui a consacré l'appellation, il me semble que le texte biblique suggère que la bonne manière de nommer la période au sein de laquelle nous vivons, après le Miocène, qui consacre l'apparition de la lignée humaine, après le Pliocène et le Pléistocène, qui est marqué par l'extinction des mammifères géants, après l'Holocène, qui se caractérise par la sédentarisation et l'agriculture, la bonne manière de nommer la période dans laquelle nous vivons, c'est l'Anthropocène. Et cette appellation a été validée au début de l'année par les stratigraphes londoniens qui font référence en la matière. Anthropocène parce que l'homme est ce qui influence le plus l'évolution de la Terre. Le deuxième récit de la Genèse tient compte de ce trait caractéristique. Et au lieu de dire que la nature environnante doit être respectée en essayant de faire des gesticulations pour que les gens prennent conscience que l'environnement c'est important, eh bien, l'auteur de ce récit change de référentiel. Il pose qu'il n'y a pas l'homme et son environnement qui seraient comme deux lutteurs aux prises l'un avec l'autre. La question est de savoir lequel des deux l'emportera. La Genèse raconte que l'homme est issu de la nature, qu'il est de la même nature, qu'il est constitué de ce qui compose la nature, qu'il n'y a pas d'un côté l'être humain et de l'autre la nature, mais que la nature est la peau de l'homme, sa chair. Adam, puisque c'est de lui dont il s'agit dans le récit de la Genèse, Adam doit son nom à la matière de laquelle il est issu, Adama, la terre. Si Adam s'appelle Adam, si l'homme en tant qu'être humain s'appelle Adam dans le récit de la Genèse, c'est parce qu'il est issu de Adama, la terre. C'est la raison pour laquelle Chouraki traduit non pas Adam par Adam, mais par glébeux. Et au fond, il ne fait pas preuve d'un grand radicalisme, on ferait mieux de traduire par boueux, voire par bouseux. Ce changement de perspective a des intérêts majeurs, au moins deux. Le premier intérêt est de nous rendre solidaires de la nature, qui n'est plus notre environnement, mais une part de nous-mêmes. La nature n'est pas seulement utile pour s'alimenter, pour se protéger, pour produire des biens de confort. La nature, c'est ce qui nous permet d'être vraiment. Nous sommes des molécules qui font partie du tableau périodique des éléments chimiques établis par Mendeleïev. Supprimez une case, vous blessez l'homme. Supprimez une case, vous atrophiez l'être humain. Et cela, l'égoïste peut le comprendre. Dégrader la nature, ce n'est pas dégrader l'environnement, c'est blesser l'homme. C'est se mutiler soi. C'est nous dégrader dans notre possibilité d'être, nous qui sommes nature. Et réciproquement, du coup, ce que l'on fait à l'homme, c'est à la création qu'on le fait. L'injustice sociale a des effets immédiats et à moyen terme sur la planète. Les pauvres détruisent par nécessité tant qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Il y a un deuxième intérêt à cette perspective égoïste. C'est de nous révéler que tout ce que nous faisons en faveur de la nature a un impact bénéfique sur nous et donc sur l'ensemble. Autrement dit, il n'y a pas de petits gestes. Chacune de nos actions est en interaction avec l'ensemble. Et le bien que nous faisons ici a des répercussions au loin et sur nous-mêmes. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de laisser à d'autres le soin de s'occuper de ces affaires-là. Ce que nous faisons a aussi un impact et le bien que nous faisons est donc également bénéfique. Ce n'est pas rien. La Genèse pose ici les bases d'une éthique de la responsabilité qui fait de chacun de nous une partie prenante de l'état du monde. Et nous pouvons trouver là un fondement à la radicalité de l'éthique de responsabilité, à l'éthique du respect de la vie telle que Albert Schweitzer l'a développée, par exemple. Ceci étant, les petits gestes ne suffisent pas. Soyons clairs, ce n'est pas le tri sélectif qui nous évitera les grandes catastrophes écologiques. C'est la raison pour laquelle ce récit de la Genèse va opérer un deuxième décalage, un deuxième changement de référentiel. Après nous avoir pris par la main avec notre petit égoïsme sur mesure, après avoir mis fin à l'idée selon laquelle il y aurait nous et l'environnement, après avoir mis en évidence notre solidarité avec l'ensemble de la création, ce récit change de référentiel pour penser à hauteur de l'universel, non plus simplement à partir de nous-mêmes, mais aussi en fonction de l'ensemble. Notre petit égo est appelé à se mesurer à la question de l'éternel, c'est-à-dire à la question de l'être même, de ce qui fonde l'être. C'est en racontant que l'homme est au bénéfice du souffle divin que la Genèse accomplit ce petit changement de perspective. La respiration de l'éternel est insufflée en l'homme. C'est là une manière de dire que l'homme est mis en relation avec l'humanité tout entière et pas uniquement de manière horizontale, mais aussi de manière verticale, c'est-à-dire de manière qualitative, en rappelant que nous avons certes une condition commune, mais aussi en disant que l'homme est vraiment humain lorsqu'il est en relation avec l'éternel, autrement dit, avec ce qui rend l'être possible, avec ce qui nous permet de penser l'être véritable. L'homme n'est pas simplement un dispositif biologique, c'est aussi un être symbolique, capable de penser ce que signifie être, à la condition qu'il se décentre de lui-même et sorte de ses schémas individualistes. Ce que ce récit dit avec le souffle divin, la tradition juive, et plus spécifiquement ashkénaze, le dit avec un autre récit tout à fait intéressant. C'est la légende du golem. Le golem, c'est une sorte d'Adam. C'est de la terre, un peu informe, à partir de laquelle un rabbin peut donner la vie, en faire un être animé capable de rendre service. Pour donner la vie à cette masse informe, il s'agit d'écrire sur le golem « Emet ». En hébreu, ça veut dire « vérité ». Aleph, Mem, Tav. Selon une tradition, il arriva qu'un golem fut blessé et que la première lettre fut arrachée, effacée. Il manquait donc le « Aleph ». Il ne restait plus que le « Mem » et le « Tav ». Ce qui en hébreu signifie « mat », la mort, comme dans « échec et mat »,« chat, mat », le roi est mort. Cela signifie que la perte du « Aleph », qui est aussi l'initiale de « El », le nom commun de Dieu, la perte de cette première lettre de l'alphabet, l'Aleph c'est ce qui est au fondement de l'alphabet hébreu, eh bien la perte de ce fondement entraîne la perte de la possibilité de maintenir la vie. La perte du fondement conduit à la mort. Et de fait, dans cette tradition, on raconte comment ce golem devient vecteur de mort. Cette histoire de la tradition ashkénaze, ou ce récit biblique, ont pour fonction d'être des procédés mnémotechniques pour nous. Pour nous rappeler qu'à chaque fois qu'on cesse de placer notre existence finie face à l'ultime, face à l'inconditionné, face à la vérité articulée à ce qu'il y a de plus fondamental pour nous, et Esther rappelait plusieurs fois la question des fondamentaux, on devient soi-même agent de mort. lorsque notre vérité n'est articulée que sur nous-mêmes et pas sur quelque chose de plus universel, nous devenons vecteurs de mort. Lorsqu'on cesse de considérer que nous ne sommes ni l'alpha ni l'oméga de l'histoire, lorsque nous nous contentons de notre vision du monde, lorsque nous évitons le débat contradictoire, nous devenons vecteurs de mort. Pour le dire plus calmement peut-être, ces récits nous invitent à un peu d'humilité. Nous ne sommes pas capables de créer la vie. Nous ne sommes pas capables de nous placer au fondement de la vie. Oui, nous savons procéder à des fécondations in vitro, nous savons interroger l'ADN, mais le 29 septembre 1991, quatre hommes, quatre femmes s'enferment dans un espace de 16 000 mètres carrés nommé Biosphère 2. Nous sommes dans le désert du Nevada. Il s'agit d'une serre isolée de l'atmosphère dans laquelle des chercheurs ont installé un désert, des marais, une mer, une savane, une forêt tropicale, une zone de culture, une atmosphère. Et voilà, l'oxygène vient à se raréfier. Les invertébrés et les insectes pollinisateurs meurent. Des membres de l'équipe tombent malades. Il faut se résoudre à stopper cette expérience de 200 millions de dollars qui met en évidence l'importance de bien s'occuper de Biosphère 1, notre Terre. Parce que nous ne sommes pas capables de fonder la vie. Nous ne sommes pas capables de produire la vie. Se placer face à l'ultime, refuser les vérités partisanes, ne pas s'enfermer dans des schémas univoques, c'est également nécessaire pour ne pas faire de la nature une nouvelle divinité qui aurait toujours raison contre nous. La nature n'est pas plus douée que nous. Le 21 août 1986, nous sommes au Cameroun, le lac Nyos est le lieu d'une éruption de gaz. 1700 morts à cause d'un dégagement de CO2. 1700 morts qui ne sont pas les victimes d'une défaillance nucléaire, de chercheurs qui se prennent pour des apprentis sorciers ou de consommateurs irresponsables. Simplement, la nature peut être un danger pour elle-même. Et quand vous vous promenez dans des endroits où la main de l'homme n'est manifestement pas passée, il n'est pas toujours prudent de boire l'eau qui est là, à l'état naturel. L'eau naturelle n'est pas nécessairement propre à la consommation. Il est bien nécessaire souvent que la science de l'homme intervienne en bien des lieux, ce qui, j'en connais au moins un qui ne sera pas très heureux de ce que je vais dire, ce qui est loin de l'idéal proposé par Jean-Jacques Rousseau, qui refusait toute modification de l'état de la nature au prétexte que toute intervention sur la nature déforme la nature. Bref, sortir de l'ère technologique, se détourner de la science ne serait pas une solution. Et puis il y a d'autres logiques partisanes qui montrent des dénis de vérité, des dénis qui semblent ne servir qu'à des fins personnelles, une manière d'exister dans le paysage médiatique. On se souvient des débats autour des antennes relais pour les téléphones mobiles. Ces antennes ont été l'objet de furieuses protestations, et d'ailleurs elles le sont encore dans le métro parisien. Alors que les antennes relais pour téléphones mobiles émettent moins d'énergie que les antennes relais pour la télévision, qui, elles, ne posent pas de problème. Résultat des courses, la puissance des téléphones mobiles a été augmentée pour compenser la diminution des antennes relais. Moralité, nous avons à proximité une source d'énergie plus importante que ce qu'elle n'aurait été autrement. Rien de tel, à vrai dire, qu'une joyeuse famille habitant Saint-Cloud et se plaignant de problèmes de santé survenus depuis l'installation d'une antenne relais de téléphone qui, on le découvrira, n'a été branchée que deux mois après par l'opérateur pour jeter le soupçon sur l'impact de l'homme au sein de la création. Fort heureusement, des exemples montrent que des efforts convergents entre scientifiques, politiques, industriels, citoyens concourent à améliorer sérieusement la situation d'ensemble. parce qu'une mobilisation sérieuse avait été entreprise après qu'on eut repéré les fameux trous dans la couche d'ozone, on a pu constater que celle-ci s'était effectivement renforcée quelques temps après. Et si vous avez encore quelques envies de diviniser la nature, sachez que le renforcement de la couche d'ozone s'est fait indépendamment de toute action des vaches, qui pourtant sont de grandes donatrices de gaz à effet de serre et qui n'avaient rien mesuré à l'enjeu de la situation. Comme le disait Talleyrand, en politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Alors les auteurs bibliques s'efforcent que ce qui est cru soit la vérité. L'auteur biblique s'efforce ici de remettre la vérité au cœur de la sagesse de l'homme et d'en faire un motif de croyance, un motif de confiance. L'auteur biblique agit de telle manière que nous sortions de nos logiques personnelles individualistes qui s'avèrent souvent mortifères, parce que l'auteur biblique, déjà à cette époque, savait que l'erreur et l'ignorance coûtent cher. La fragilité de l'existence, la fragilité de la terre sont suffisamment évidentes pour ne pas faire comme s'il n'y avait rien à faire. L'homme semble effectivement bien être celui qui a le plus d'impact sur la planète. Pour certains, cela pourrait constituer une menace terrible, irréversible. Dans la perspective biblique, ce n'est pas une menace. Car lorsqu'il accepte sa divine humanité, comme c'est raconté dans cet épisode de la Genèse, l'homme devient capable. Capable finalement de mettre en œuvre ce programme que Jacques Ellul avait résumé en une formule, penser globalement, agir localement. Amen.
Thank you.
Et pour ne pas rester à la hauteur du plancher des vaches, je vous propose de chanter le cantique 240, les strophes 1, 2 et 3, de manière à élever notre âme vivante, qui est l'expression utilisée dans le texte hébreu de Genèse 2. Dans quelques minutes, nous partagerons la scène. Je rappelle que nous sommes toutes et tous invités à ce repas, quelle que soit notre origine, notre identité, notre trajectoire, nos états d'âme. C'est le repas qui nous est offert pour nous aider à progresser dans notre humanité et aussi à manifester les liens qui nous unissent. même si nous ne les souhaitons pas. Dans notre calendrier, cette semaine, mercredi, a lieu la lecture biblique hebdomadaire de l'été. C'est à 12h30, de 12h30 à 13h30, salle Roberti au rez-de-chaussée, dans la maison presbytérale qui se trouve en face, 4 rue de l'Oratoire. Nous aurons l'occasion d'évoquer la question des relations entre Jésus et Judas, et notamment la fin de leur histoire. Ils finissent d'ailleurs à peu près au même moment. Pour les dire clairement, je m'efforcerai de réhabiliter Judas. Peut-être même d'en faire le meilleur des disciples. Bon, on verra. J'aurai besoin de vous pour cela. Dimanche prochain, notre culte est à 10h30. Et c'est maintenant le moment de l'offrande, l'occasion de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour accomplir sa vocation ici même et partout où cela est nécessaire. Nous élevons notre cœur vers le Seigneur. Oui, c'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie et tu nous donnes l'espérance. Tu as envoyé ton Fils, il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit, il est devenu notre paix. C'est pour nous l'évangile de l'émerveillement, que toi, Seigneur, tu sois notre Père, que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde et que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous t'adorons et que nous te chantons. Amen. Thank you. Pendant que Jésus et les disciples mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Éternel notre Dieu, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans notre cœur et dans le monde, de telle sorte que puisse s'accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple en nous levant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Frères et sœurs, le Seigneur frappe à la porte de notre existence. Nous avons la liberté de lui ouvrir et de lui faire bon accueil. Et nous formerons des tables successives autour de cette table de communion, en arrivant par l'allée centrale pour ceux qui sont dans la nef, et en repartant par les allées latérales. Frères et sœurs, venez. Car tout est prêt. Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour la multitude, pour le pardon. Thank you. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la paix du Seigneur ressuscité. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.